À l'écoute de RFI, il est 1h à Paris, 2h à Moscou et Kiev.
Mathis Limano.
Dans votre journal, le cessez-le-feu en Ukraine, décrété par Vladimir Poutine ce samedi. Il doit durer jusqu'à dimanche soir, le temps du week-end de Pâques. Volodymyr Zelensky propose d'étendre le cessez-le-feu. Le président ukrainien qui a dénoncé des violations dès ce samedi par la Russie dans plusieurs régions du pays, dont la capitale Kiev, les sirènes d'alerte ont retenti. Pas de répit pour la mobilisation en Turquie. Cela fait un mois que le maire d'Istanbul est emprisonné. Son parti, le CHP, dénonce un putsch et maintient la pression sur le président Erdogan. Également dans votre journal, on parle de cette décision du Pentagone. Les États-Unis vont drastiquement réduire leur présence militaire en Syrie. De quoi inquiéter les Kurdes, vous l'entendrez. Et puis en France, avec 73% des voix, Marine Tondelier est reconduite à la tête des écologistes. L'Ukraine accuse donc ce soir la Russie de violer son propre cessez-le-feu. Les sirènes d'alerte ont retenti à Kiev et dans l'est du pays. Dans le sud également, à Kherson, le gouverneur de la région fait état ce soir d'attaques de drones russes. Pourtant, quelques heures auparavant, c'est Vladimir Poutine qui a ordonné une très courte trêve le temps du week-end pascal. Un arrêt des hostilités qui doit durer jusqu'à dimanche soir. RFI Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est un Vladimir Poutine qui se dit guidé par des principes humanitaires qui a annoncé cet après-midi un arrêt complet des combats en Ukraine à l'occasion de ce week-end pascal. Lors d'une réunion avec son chef d'état-major, le président russe a décrété cette trêve de manière unilatérale en expliquant qu'il partait du principe que les forces ukrainiennes suivront l'exemple russe. Mais il a toutefois précisé que ses forces armées répondront à toute violation de cette trêve, comme à tout autre type de provocation de la part de l'ennemi. C'est la première fois depuis le début du conflit, il y a plus de 3 ans, que la Russie procède à un gel des hostilités, une façon aussi pour Vladimir Poutine de répondre aux critiques occidentales. À Washington comme à Bruxelles, on accuse le président russe de chercher à gagner du temps en posant des conditions pour appliquer la trêve de 30 jours promue par l'Ukraine et les États-Unis. Il en a profité aujourd'hui pour inverser les rôles en expliquant qu'il sera possible de juger la capacité des Ukrainiens à régler ce conflit de manière pacifique sur la base de la façon dont Kiev respectera ce cessez-le-feu. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Et dans la région de Koursk, région russe, cible d'une offensive ukrainienne depuis l'été dernier, le Kremlin annonce avoir repris la quasi-totalité, plus de 99% du territoire. Et puis c'est l'un des derniers domaines de coopération entre les deux pays, l'échange de prisonniers. Ce samedi, 246 prisonniers de guerre de chaque camp ont été libérés. Des discussions dans une atmosphère constructive, voilà ce qu'on pouvait entendre à la télévision iranienne ce samedi, alors qu'Américains et Iraniens étaient réunis à Rome pour échanger sur le programme nucléaire de l'Iran. Téhéran et Washington cherchent un accord qui assurera un Iran sans armes nucléaires et sans sanctions, rapportent les autorités d'Oman qui assurent la médiation. C'est d'ailleurs dans le sultanat que les discussions doivent reprendre samedi prochain. Direction la Turquie à présent, voilà un mois que le maire d'Istanbul est en prison, arrêté pour terrorisme et corruption. Ekrem İmamoğlu fait figure de principal rival au président Erdogan. Son incarcération a poussé des centaines de milliers de Turcs à descendre dans la rue. Et si les fêtes de la fin du Ramadan ont ramené un calme relatif, le vent de révolte souffle toujours. Le CHP, parti politique du maire d'Istanbul, s'efforce de maintenir la pression sur le pouvoir et organise 2 rassemblements par semaine. Ce samedi, à Nandlower, c'était dans un bastion du pouvoir à Yozgat, en Anatolie centrale.
Özgür Özel, le dirigeant du CHP, est entré dans Yozgat au volant d'un tracteur suivi de dizaines d'autres klaxons hurlants conduits par des agriculteurs. L'image et le choix de Yozgat n'ont rien d'anodin. Au plus fort des rassemblements contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, cette région conservatrice avait été le témoin d'une scène étonnante, une manifestation d'agriculteurs en faveur du maire d'Istanbul sur leur tracteur, dans une ville où le CHP n'a récolté que 2% des voix au municipal de l'an dernier. Le principal parti d'opposition veut faire de Yozgat un symbole. Le CHP ambitionne non seulement de faire durer la contestation, mais aussi de l'étendre à toute la Turquie, en particulier aux provinces qui semblent acquises au président Erdogan. À Yozgat, ils étaient des milliers pour écouter Özgür Özel.
Nous aurions pu faire ce meeting à Antalya ou dans un autre bastion de notre parti. Mais si cette place, cette ville de Yozgat qui a voté pour toi, Erdogan, à 75% à la dernière présidentielle, se fait entendre aujourd'hui pour dénoncer ce putsch contre les urnes, cette junte que tu as mis à la tête du pays, alors, Erdogan, c'est que nous sommes au bon endroit.
Bu meydandır Erdoğan.
Prochain rendez-vous pour l'opposition, le 23 avril, un jour de fête nationale en Turquie, pour une grande marche à Ankara jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République. À l'endroit Ankara RFI.
Et journée de manifestation également aux États-Unis. Des milliers d'Américains sont descendus dans la rue à New York et dans d'autres grandes villes du pays. C'est la deuxième journée de mobilisation anti-Trump en l'espace de 2 semaines. Dans le viseur des manifestants, la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, au moment où la Cour suprême a suspendu l'expulsion d'un nouveau groupe de migrants vénézuéliens. Ils devaient quitter les États-Unis en vertu d'une loi datant du XVIIIe siècle portant sur les ennemis étrangers. Leur expulsion est suspendue jusqu'à nouvel ordre, a statué la plus haute juridiction américaine. Le Pentagone annonce officiellement vouloir réduire sa présence en Syrie à moins d'un millier de soldats dans les prochains mois. Donald Trump avait déjà sous-entendu depuis la chute de Bachar el-Assad que ce retrait de troupes arriverait. Une mauvaise nouvelle pour les Kurdes présents dans le nord-est syrien. Marie-Charlotte Roupique redoute les forces kurdes.
La principale inquiétude concerne l'impact que le retrait partiel des forces américaines aura sur la lutte contre les cellules restantes de l'État islamique. Les forces kurdes ont sous leur responsabilité des prisons et des camps de déplacés qui abritent toujours des milliers de combattants djihadistes et leurs familles. Et depuis la chute du régime Assad, elles craignent que l'État islamique ne profite de cette période d'instabilité politique pour se renforcer et tenter de libérer les détenus. Les États-Unis, dans leur communiqué, se veulent rassurants. Le retrait partiel des forces américaines ne signifiera pas la fin de la lutte contre la résurgence de l'État islamique. Autre inquiétude, de nombreux observateurs anticipent que la Turquie pourrait profiter du vide laissé par les Américains pour mener de nouvelles opérations contre les Kurdes. Mais cette annonce américaine s'inscrit dans un contexte plus large de négociations poussées par Washington entre les autorités kurdes et le nouveau pouvoir de Damas allié d'Ankara. Un premier accord signé en mars doit ouvrir la voie à une réunification des institutions politiques et militaires syriennes d'ici la fin de l'année. Certains observateurs estiment que cela pourrait servir de garantie pour protéger les Kurdes d'une offensive turque. Pour l'heure, les négociations sont toujours en cours sur tous les fronts et les conséquences réelles sur le terrain restent difficiles à anticiper. Marie-Charlotte Roupi, Bagdad RFI.
À noter cette visite inédite ce samedi à Damas, celle d'un membre du Congrès américain, Corey Mills, membre du Parti républicain. Il a été reçu par le président par intérim, Ahmad al-Sharrey. C'est la première visite d'un élu américain en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. En Afghanistan, le pouvoir taliban exprime sa profonde préoccupation après de nouvelles expulsions par le Pakistan voisin de ressortissants afghans. Islamabad accuse notamment les 3 millions d'Afghans vivant au Pakistan d'être liés au terrorisme et au narcotrafic. Kaboul dénonce pour sa part des violences et des expulsions à des fins politiques. Depuis le 1er avril, point de départ de ces expulsions, 85 1000 Afghans ont été reconduits à la frontière. Politique en France à présent. L'écologiste Marine Tondelier reconduite à son poste de secrétaire nationale du parti. Elle a obtenu 73% des suffrages, loin devant ses 3 concurrents. Prochaine étape, désormais la convention d'investiture des écologistes les 26 et 27 avril prochains. Elle sera notamment attendue au tournant sur un sujet. Faut-il organiser une primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027? Si oui, avec ou sans les insoumis? C'est une question prématurée, répond la principale intéressée. Écoutez-la.
On veut un cadre commun. Ça peut être une primaire, ça peut être autre chose. On ne sera pas bloquant là-dessus. On est prêt à examiner tout. Mais on veut qu'il existe et qu'il soit très manifeste, qu'il était proposé à tout le monde et qu'il soit très manifeste, que certains l'acceptent. Si tout va bien, tout le monde. Si tout ne va pas bien, certains ne l'accepteront pas, mais en conscience et clairement. Parce qu'en plus, la question du cadre commun, tout le monde s'excite là-dessus et on a raison. C'est notre plan A, c'est très important, mais il faut qu'on prépare 2 choses. La première chose, c'est si ce cadre commun existe, quel rôle l'écologie doit y jouer? Et vous voyez bien qu'il y a plein de manières de répondre à cette question. Et puis la deuxième chose qu'il faut qu'on prépare, c'est que peut-être qu'il n'y aura pas de cadre commun. Et dans ces cas-là, il faut aussi qu'on réfléchisse à ce que nous ferions dans ce cas-là. Donc ça fait 2 questions importantes pour à se poser d'ici la rentrée.
Propos recueillis par Victorien Villaume. Enfin, un mot de foot. Marseille reprend la 2e place de Ligue 1 après son carton 5-1 face à Montpellier dans le match du soir. Les Montpelliérains, toujours lanterne rouge de Ligue 1, voient la relégation s'approcher dangereusement après cette 11e défaite consécutive. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel.